Bien le bonjour, chers auditeurs et chères auditrices, vous écoutez Radio Libertaire 89.3, la radio de la Fédération anarchiste. Il est 10h et il est largement temps de parler politique en notre compagnie. Donc, c'est l'heure de délibérer avec Mariam à mes côtés. Bonjour Mariam.
Bonjour.
Et Alix à la technique. Merci Alix de nous seconder. Alors, aujourd'hui, on va pas parler de la réforme des retraites. Non, on va parler un tout petit peu de la réforme des retraites quand même.
Un peu quand même.
Si, si. Non, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler. Mais tout d'abord, on va déjà quand même se dire un peu de mal du gouvernement. Je pense que c'est important, surtout dans la séquence actuelle. Et vous allez me dire, mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, ce gouvernement fait absolument tout pour nous éloigner en fait de la gouvernance du pays. Nous, le peuple, quand même. Hein, donc, c'est un petit peu un problème. Et puis, face à ça, face à tout ce mouvement de contestation, nous, on avait quand même un petit sujet à rajouter sur la table, puisque nous accueillons aujourd'hui un invité de choix, Monsieur Benjamin Fiorini, maître de conférence à l'Université de Paris 8. Bonjour.
Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation.
Merci à vous d'être là surtout. Alors, vous êtes spécialiste en droit privé et aussi en sciences criminelles.
Essentiellement sciences criminelles, oui. J'enseigne toutes les matières liées, on va dire, aux sciences criminelles, au droit pénal.
Parfait. Et donc, vous êtes là pour nous parler d'un sujet qui vous tient à cœur et que vous avez pris à bras-le-corps depuis quand même pas mal de mois, voire d'années. J'ai un peu fouillé les archives et
oui.
Il se trouve que c'est une lutte qui commence à dater et qui concerne les jurys populaires.
Oui, effectivement. Donc là, ça fait 6 mois à peu près que je suis sur la brèche pour essayer de mobiliser le plus possible pour essayer de sauver les jurys populaires de cours d'assises qui sont en voie de disparition, puisque depuis le 1er janvier 2023, suite à une loi de 2019, donc c'est pour ça que le combat en fait s'inscrit dans une plus longue durée. Depuis le 1er janvier 2023, sachez, chers auditeurs, que les jurys populaires ont disparu dans 60% des affaires criminelles, ce qui signifie que la participation citoyenne à la justice criminelle est devenue minoritaire dans notre pays, alors que c'était une conquête révolutionnaire, un héritage de 1789.
Et oui, justement, par rapport à cet héritage, en fait, la fonction des jurys populaires, c'était quand même de rétablir la confiance du peuple envers l'institution judiciaire, puisque ça, normalement, ça aurait dû permettre quand même d'amoindrir les sentences peut-être partiales ou une justice par trop, on va dire, spécialisée, faite par, du coup, des experts, et peut-être rajouter un peu, justement, de proximité, en fait, entre les citoyens lambda et puis la justice qui, quand même, les surveille et normalement doit intervenir dans leur vie de manière assez quotidienne. Du coup, le fait de retirer en fait les jurys populaires, le problème, c'est que ça vient encore une fois de plus, après quand même, je le rappelle, un quinquennat de M. Macron particulièrement autoritaire, on va dire, avec notamment, on se souvient de la Convention citoyenne pour le climat, très écoutée.
Oui, en vrai, échec.
Non, un échec, mais non, je dirais que ça n'a pas marché. Voilà. Non, on va pas faire ça, on va pas reprendre les mots du gouvernement quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se souvient aussi du grand débat national, etc. Donc, en fait, cette sorte d'esbrouffe, concertative, etc., qui nous fait croire à un dialogue avec les citoyens et citoyennes, et puis finalement, dans les faits, un éloignement des citoyens et des citoyennes de la gouvernance du pays et particulièrement de cette institution judiciaire. Et moi, j'aimerais quand même, je peux pas résister avant de commencer ce débat avec vous par passer ce petit extrait si c'est possible d'un film que je pense que vous connaissez très bien, mais voilà, c'était mon petit plaisir là.
Vous avez assisté au débat. Vous savez qu'il s'agit d'un cas assez complexe, d'un meurtre avec préméditation. La préméditation en matière d'assassinat est ce que nos cours criminelles ont à juger de plus grave. Vous avez entendu les témoignages, on vous a lu expliquer les textes de loi qui seront appliqués dans ce cas, et maintenant votre devoir est de réfléchir afin de séparer les faits de ce qui relève de l'imagination. Un homme a été tué. et la vie d'un autre est en jeu. S'il existe dans votre esprit un doute valable sur la culpabilité de l'accusé, un doute valable, vous devez m'apporter un verdict de non-culpabilité. Si vous n'éprouvez aucun doute valable, vous devez en votre âme et conscience déclarer l'accusé coupable. Quelle que soit votre décision, elle devra être unanime. Dans le cas où vous rendriez un verdict de culpabilité, la Cour ne le discutera pas. Il sera irrévocable et entraînera automatiquement la sentence de mort. Vous assumez, messieurs, une grave responsabilité. Je vous remercie.
Alors, évidemment, je n'ai pas diffusé la version originale, qui est en anglais. je pense que vous avez reconnu les voix françaises, malgré tout.
C'était Douze Hommes en colère.
Évidemment. Oui. Je suis désolée, je ne pouvais pas rester.
Ah, mais c'est très bien. Excellent choix.
Mais disons que, en fait, j'ai tout de suite pensé à ça quand j'ai commencé à lire vos nombreux articles et tribunes et contributions, finalement, à cette lutte pour préserver les jurés populaires. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce film, puisqu'il date quand même de 1957. Mmh. Mais il tourne autour de, pendant une heure et demie, de simplement la délibération d'un jury. Alors évidemment, c'est un contexte qui est totalement différent, mais pour vous justement qui avez fait une étude comparative entre les droits français et états-uniens, finalement c'est quelque chose quand même que vous devez connaître un peu, puisque effectivement le film il se passe donc aux États-Unis où le recours au jury populaire est, je crois, beaucoup plus systématique.
Alors oui et non. Oui en principe, parce qu'il y a un amendement à la Constitution américaine qui est le 6e amendement de mémoire, qui prévoit effectivement que pour toute affaire pénale, donc c'est pas seulement les affaires criminelles comme en France, c'est toute affaire pénale, donc ça peut même être une contravention. Théoriquement, c'est un jury qui doit intervenir pour juger cette affaire-là. Si ce n'est que ça supposerait un nombre de procès extrêmement important, bien évidemment, et que pour éviter cela, les Américains ont développé une procédure qu'on appelle le plaidé coupable, qui fait que les personnes, au lieu d'être jugées par un jury populaire, justement, vont simplement faire un deal, une sorte de contrat avec le procureur où ils reconnaissent leur culpabilité en échange de certaines faveurs. Typiquement, ils vont pas aller 30 ans en prison, ils vont aller 10 ans en prison. C'est une sacrée faveur, mais toujours est-il que ça fonctionne bien, et ça fonctionne tellement bien qu'actuellement, 98% des procès américains se soldent par un plaidé coupable. Ça fait que le jury populaire, en fait, n'intervient que dans 2% des cas aux États-Unis, ce qui est terrible, parce qu'il faut savoir que le procureur, quand il négocie avec la personne, il a des moyens de négocier que la personne n'a pas. Surtout que si c'est une personne qui est en état de nécessité et qui n'a pas de ressources financières pour financer un avocat, des détectives privés qui vont mener des contre-enquêtes, du coup, il y a une énorme inégalité aux États-Unis à ce niveau-là, et le jury n'intervient presque plus que de manière résiduelle, alors même que c'était censé être une garantie constitutionnelle.
C'est incroyable parce que justement, on a cette image finalement du jury populaire qui mettrait à mal le bon fonctionnement de la justice états-unienne. Et en fait, alors, il y a toujours des moyens de contourner ce jury populaire finalement. On trouve toujours les bonnes solutions.
Oui, et ce qui est pire, je dirais même, c'est qu'aux États-Unis, vous avez une université qui est l'université du Michigan qui tient un registre qui s'appelle le registre national des exonerations, ils disent aux États-Unis, dont on dirait des erreurs judiciaires, et qui liste en fait toutes les erreurs judiciaires qui ont été officiellement reconnues par les tribunaux aux États-Unis. Vous en avez un nombre très très important, beaucoup plus important qu'en France, plusieurs milliers. Et parmi ces erreurs judiciaires, il y en a à peu près une sur quatre qui est issue d'un plaidé coupable. Ça veut dire que dans un cas sur quatre, ce sont les personnes qui elles-mêmes ont reconnu leur culpabilité, alors même qu'elles étaient innocentes, pour différentes raisons, parfois parce qu'elles avaient ces personnes en difficulté psychologique et avaient besoin qu'on s'intéresse à elles, parfois parce qu'elles ont voulu couvrir quelqu'un, parfois parce qu'elles ont subi des interrogatoires policiers un peu musclés qui les ont conduits à reconnaître des faits faux, parfois même pas parce que les interrogatoires policiers étaient particulièrement musclés, mais parce qu'ils ont été faits d'une telle manière que la personne a été confrontée à des éléments de preuve qu'elle s'est auto-convaincue de sa culpabilité.
C'est incroyable.
Ouais, c'est des choses qui arrivent. Et
j'en reviens pas.
Ouais. C'est ce qu'on appelle les interrogatoires suggestifs dans le jargon.
C'est bel euphémisme.
Oui. Et oui, donc vous avez vraiment cet état de fait qui montre que le plaidé coupable est source d'erreurs judiciaires. Et le problème, c'est qu'en France, il se développe aussi, alors de manière bien moindre qu'aux États-Unis, parce que c'est réservé à ce qu'on appelle la catégorie des délits, et c'est pas pour tous les délits. Donc ça vaut pas pour les crimes, par exemple, donc pour les infractions les plus graves qui, en principe, doivent passer en cour d'assises, même si on va y revenir, maintenant, ça sera plus que dans la minorité des cas. Mais pour les délits, oui, on développe de plus en plus ce mécanisme, en sachant très bien, encore une fois, qu'au regard de l'expérience de nos collègues américains, qu'il est source d'erreurs judiciaires.
Bah écoutez, c'est quand même...
Du coup, j'ai une question pour Remedia. Cela, il faut absolument maintenir le système des jurys populaires, c'est ça? Enfin, si je comprends bien.
Ce qu'il faudrait faire, je pense, oui, à mon sens, il faudrait maintenir le système des jurés populaires. Moi, je suis un fervent défenseur des jurés populaires. Alors, pour des raisons que vous avez un petit peu évoquées au départ, on pourra décliner les raisons, je pense, tout au long de cette émission. Mais effectivement, en 1789, alors plus exactement en 1791, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a une loi qui est votée et qui prévoit l'introduction des jurés populaires dans le droit français, l'idée initiale, c'était de lutter contre le système d'Ancien Régime, qui justement donnait beaucoup de pouvoir, non seulement au roi, mais également aux juges, un pouvoir arbitraire. Et c'était que les citoyens puissent avoir un droit de regard sur les affaires les plus graves, notamment, et puissent justement participer, contrôler quelque part la manière dont la justice est rendue. Et en renonçant au jury populaire, on renonce à ce contrôle direct sur les verdicts, et on renonce de manière plus large à une forme de démocratie authentique, parce que, bon, bah, je pense que vous êtes sensibilisés à ça autour de ce plateau, c'est oui. Que, bon, on a basé notre démocratie sur l'élection, ce qui est presque une contradiction dans les termes, parce que l'élection est plutôt quelque chose qui renvoie à l'aristocratie d'un point de vue historique. Et le jury populaire, objectivement, c'est la dernière institution en France où on demande à les citoyens, non pas de décider ce qu'ils vont décider à leur place, mais de véritablement décider, de trancher un problème qui est posé à la collectivité. Et c'est aussi ça, aussi, je pense, qui pose un problème à nos gouvernants, c'est que les citoyens puissent avoir cette prise.
Mais d'ailleurs, moi, j'aimerais bien quand même, avant qu'on parle de la lutte plus spécifique que vous menez en ce moment, simplement aussi le fonctionnement en fait, de ces jurys, parce que, bon, peut-être que nous, on est un peu plus familière avec ça, mais pour ceux qui nous écoutent, et ceux qui nous écoutent, ce serait pas mal.
Oui, en fait, alors les jurés citoyens depuis 78, donc, c'est assez récent en réalité, hein, parce que le système des jurés est ancien, mais il est passé par beaucoup de systèmes, mais depuis 1978, les jurés sont tirés au sort sur les listes électorales. Il y a une succession de plusieurs scrutins. Vous avez un premier tirage au sort au niveau de la municipalité. Vous avez un deuxième tirage au sort qui se fait au niveau de la juridiction elle-même. Et le jour J, le jour du procès, vous avez un panel de plusieurs personnes qui est convoqué pour éventuellement siéger en tant que juré. Et pour chaque affaire, vous allez avoir un nouveau tirage au sort où le président va avoir une urne. C'est très symbolique, hein, les assises, de toute façon. Une urne où il va tirer des petites boules sur lesquelles il y a marqué le nom des personnes désignées. Et quand le nom du jury est mentionné, le jury doit se lever, il doit se diriger vers le siège où il est censé prendre place, et là il passe entre l'avocat de la défense et le procureur qui peuvent tous les deux le récuser. Qui peuvent le récuser dans un nombre limité de cas, et d'ailleurs sans donner de motif, ce qui est une différence aussi avec le droit américain. Le procureur va regarder, par exemple, la personne, sa tête ne va pas lui revenir, pour une raison ou pour une autre, et il va dire récusé. Et là, la personne retourne s'asseoir avec aussi une certaine violence symbolique dans la récusation.
Tout est grec la première fois. Ça a quelle origine, ça? Pourquoi est-ce qu'on a instauré ce système-là?
C'est pour éviter qu'on ait, par le tirage. Enfin, l'idée, c'est que la désignation par tirage au sort peut désigner des personnes qui ne sont pas forcément recommandables pour juger telle ou telle action. Et que par conséquent, l'avocat de la défense et le procureur peuvent récuser la personne. Si ce n'est que dans notre système, on a un gros problème, c'est que la récusation n'est pas motivée. Encore une fois, ça se fait un petit peu à la tête du client.
C'est un peu un scandale, quand même.
Oui, c'est vraiment très, très particulier. Je pense que ça devrait être modifié. Alors après, le système américain, par exemple, est très différent. Il y a une phase du procès à part entière qui est justement cette phase de récusation. Et cette phase-là peut presque durer plus longtemps que le procès lui-même. Donc vous allez avoir 12 jurés citoyens qui sont tirés au sort. Ça va être les premiers sur la liste. Et là, il y a l'avocat de la défense et le procureur qui vont leur poser plein de questions pour savoir s'ils peuvent avoir un biais par rapport à l'affaire. Et par exemple, quand j'étais aux États-Unis, j'ai vu un procès pour vous dire jusqu'où ça peut aller, cette recherche de biais. Vous aviez quelqu'un qui est accusé de viol, d'ailleurs. Et vous avez l'avocat de la défense qui pose une question à un jury potentiel. Est-ce que vous aimez le basket? Et le jury répond, oui, j'aime bien le basket. Pourquoi? Je vois pas trop le rapport. Vous supportez quelle équipe? Je supporte les Los Angeles Lakers. Eh bien, récusé. Récusé pourquoi? Parce que la personne auquel on reprochait des faits de viol était également supporter d'une équipe de basket, à savoir les Kings de Sacramento, qui se trouvait être le rival historique des Los Angeles Lakers. Et l'avocat de la défense
a considéré.
Et c'est pour ça que cette phase-là, parce que quand vous voulez trouver un biais chez quelqu'un, vous finissez toujours par en trouver un.
effectivement.
et c'est pour ça que c'est une phase qui prend extrêmement longtemps. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut trouver finalement un équilibre entre la récusation à la française, qui se fait encore une fois de manière un peu providentielle, à la tête du client, et la récusation américaine qui prend peut-être beaucoup trop de temps et qui est dans sa quête de rationalité et finalement peut-être très excessive. Certainement, en tout cas, c'est quelque chose qu'on pourrait réfléchir et qui n'a pas été réfléchi depuis longtemps d'ailleurs. Et alors donc, si les jurés passent ce filtre de la récusation, ils commencent à composer le jury. Là, généralement, vous avez une journée de formation des jurés. Donc le procès.
Donc il y a bien une formation quand même.
Il y a une formation. Il y a une formation d'une journée exactement. On va les former aux grands principes du droit déjà. On va leur expliquer comment se déroule un procès. Il y a aussi généralement un ancien juré qui vient leur expliquer que ça va aller parce que généralement les jurés sont un peu flippés. Hein. Faut reconnaître que vous n'êtes pas forcément juriste, vous vous intéressez pas forcément aux infractions. Vous voyez le programme qu'on vous propose. Généralement c'est des meurtres, des viols. Vous dites bon, ça peut être violent pour les personnes de vivre ce tirage au sort là. Et il y a un ancien juré qui vient dire, bah moi j'étais dans la même situation que vous, et puis finalement ça s'est très bien passé d'une part, et d'autre part vous allez voir, c'est extrêmement valorisant, c'est extrêmement intéressant, vous allez apprendre plein de choses, et puis vous allez vraiment décider, c'est-à-dire que pour vous ça va être quelque chose d'intéressant, vous allez en parler avec vos proches après, vous allez voir. Et il y a aussi normalement une visite de prison, alors ça se fait de moins en moins malheureusement parce que les moyens de la justice font qu'on a de moins en moins le temps d'organiser cette visite de prison, mais qui pour moi est fondamentale, parce que les jurés potentiellement vont justement envoyer quelqu'un en prison pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans,
voire la perpétuité. C'est pour leur faire voir la réalité quand même des conséquences de leur position.
Ça leur permet voilà, de ne pas envoyer quelqu'un en prison comme on envoie quelqu'un en prison au café du commerce quand on discute d'une affaire pénale et qu'on dit on devrait tous les mettre au trou, on devrait tous... voilà. Et bien là, ils voient vraiment ce que c'est la prison et après ça amène normalement en tout cas à des verdicts un peu plus modérés, en tout cas plus éclairés par les conditions réelles d'incarcération. Et après cette journée où les jurés généralement ressortent un peu plus rassurés, vient le jour J et l'audience, alors la durée de l'audience va dépendre, hein, sur certaines affaires ça va être 2 jours, généralement les viols notamment sont jugés en 2 jours, ça peut être plus long si c'est des viols dans le cadre familial ou avec une dimension incestueuse, ça peut être 3, 4, 5, voire 5 jours dans des affaires vraiment très complexes où il y a beaucoup de victimes. Et à l'issue des débats, il y a un délibéré qui a lieu pour déterminer le verdict. La culpabilité, alors pour décider la culpabilité de quelqu'un, c'est 7 voix contre 2, étant précisé que dans la formation du juré, il y a 3 magistrats, donc le président de la cour d'assises et 2 assesseurs qui sont des juges professionnels, et 6 jurés citoyens tirés au sort.
Donc c'est quand même un panel qui ne comporte pas que des citoyens.
Il n'y a pas que des citoyens. Alors en France, la seule époque où il n'y a eu que des citoyens, c'était sous la période révolutionaire. Après, on a toujours eu la présence de magistrats.
Nostalgie de cette période.
Oui, voilà. Alors il y a quand même eu la période napoléonienne où c'était un petit peu différent parce que le juré, alors délibérait seul pour le coup, mais d'une part, il ne délibérait que sur la culpabilité. C'est pas lui qui décidait de la peine. Tandis que là, le juré décide de tout. Il décide aussi bien de la culpabilité que de la peine. Enfin, culpabilité dans un premier temps, et si la personne est coupable de la peine aussi, d'une part, et puis en plus, pendant la période napoléonienne, sous l'Empire, il y avait également des possibilités pour les juges, s'ils considéraient que le verdict était mauvais, de neutraliser le verdict en convoquant un nouveau juré. Donc il y avait des neutralisations possibles du jury populaire.
Ok, donc là c'est quand même quelque chose de plus, on va dire, de plus décisif comme décision, comme sentence en fait.
C'est ça.
Le jury populaire qui va décider. Je propose quand même qu'on fasse une petite pause. Nous qui parlons beaucoup des jurés, on va peut-être se tourner quelques instants vers le banc des accusés avec Bob Marley.
Yeah. All around in my hometown,
I Shot the Sheriff de Bob Marley. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, avec notre invité du jour, Benjamin Fiorini, qui nous a fait le plaisir de venir nous parler des jurys populaires et de la préservation de ces jurys, donc mis à mal par une nouvelle réforme de janvier de cette année. Et maintenant que nous avons un peu parlé du fonctionnement, de comment les jurés étaient tirés au sort, et puis leur rôle finalement, leur formation puis leur rôle après dans le procès. Est-ce que vous pourriez aussi maintenant revenir sur un peu l'actualité de votre lutte, puisque là vous perdez pas espoir, vous continuez quand même à militer pour la préservation de ces jurys, et notamment il me semble que il y a la niche des écologistes qui va mettre à l'agenda de ces multiples mesures la préservation des jurys. Donc vous pourriez peut-être nous expliquer les arguments que le gouvernement met en place pour finalement vous justifier sa réforme, pourquoi vous vous y opposez et quelles perspectives pour la lutte.
Oui, alors je vais commencer par les perspectives et puis après je viendrai sur les arguments déployés par le gouvernement. On va voir ce qu'il en est. sur le terrain politique. Déjà, oui, sur le terrain politique, moi il y a deux choses que j'ai entreprises. La première, ça a été justement de prendre attache avec des députés pour voir s'ils voulaient m'aider dans cette lutte-là. Et effectivement, j'ai eu un retour favorable de la part d'Europe Écologie Les Verts, qui d'ailleurs après on a discuté avec les autres groupes de la NUPES qui se sont associés à la proposition de loi également. Et il se trouve effectivement qu'il y a une proposition de loi qui pourrait être votée dans le cadre de la niche parlementaire du groupe Europe Écologie Les Verts le 6 avril, si je ne me trompe pas, ou 5 avril peut-être, en tout cas tout début avril. Alors bien évidemment, il n'est pas acquis que ce texte passe, tout simplement parce que les niches parlementaires, dans notre système actuel de la 5e République, chérie, sont effectivement très très courtes. En fait, les parlementaires ont très peu voix au chapitre pour déterminer les lois qui vont être votées par leur propre chambre, si bien qu'il n'est pas certain que le texte ait le temps de passer, puisque j'imagine que Europe Écologie Les Verts va prioriser des textes liés à l'écologie. Mais je ne perds pas espoir et je continue à militer ardemment pour que ce texte soit priorisé. Un deuxième champ d'action, c'est une pétition citoyenne que j'ai déposée sur le site du Sénat. Donc vous pouvez la retrouver, amis auditeurs.
Surtout, n'hésitez pas à vous ajouter votre petite signature quelques centaines de personnes qui ont déjà contribué.
Exactement. Donc c'est sur le site www.sauvonslesassises.fr. Et j'essaye actuellement de faire monter cette pétition en quelque sorte en faisant un tour de France de conférences. Donc là, j'ai une vingtaine de conférences programmées jusqu'à mi-avril. Donc ça fait à peu près une conférence tous les deux jours. C'est assez intense.
Courage.
Oui.
Et c'est quoi les prochaines dates du coup ?
Prochaines dates. Alors il y a Angers lundi prochain, Tours jeudi et Rouen le 24, donc vendredi prochain. Ça c'est pour la semaine
parfait,
prochaine.
Parfait. J'espère qu'il
n'y a pas de date sur Paris ?
Si, Paris 28 et 29, un énorme colloque, 29 et 30, un énorme colloque à Paris 8, justement.
Paris 8.
Ouais, où il y aura beaucoup d'avocats.
Votre fief.
Mon fief, voilà, le QG de la lutte, où il y aura des avocats,
toujours,
des magistrats.
Toujours, à Paris 8.
Ah, toujours, c'est la tradition. On s'inscrit dans une tradition, après tout, il faut savoir entretenir la flamme.
Tout à fait.
Et du coup, il y aura des magistrats, il y aura des avocats, il y aura des politiques, il y aura des maîtres de conf, des profs, qui vont venir expliquer pourquoi eux aussi, ils ont rejoint ce ce combat. Donc voilà les champs d'action. Il y en a un autre dont je vais parler très brièvement, mais il est aussi possible de lutter contre les jurys populaires sur le terrain juridique. Vous avez un instrument qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Je ne vais pas être trop technique, mais en gros, vous pouvez considérer que l'absence de jurys populaires est une entorse à la Constitution, à ce qu'on appelle un principe...
Ah mais on considère,
hein, oui, oui.
Totalement.
Voilà, un principe fondamental reconnu par les lois de la République, et la question sera posée, parce que tous les avocats sont en branle-bas de combat par rapport à cette idée-là. Elle sera prochainement posée, très probablement, au Conseil constitutionnel. Alors, je ne vous cache pas que le Conseil constitutionnel, on peut toujours avoir des espoirs en lui, mais des espoirs quand même modérés. Il faut savoir...
Oui, soyons quand même réalistes, hein, aussi.
Voilà.
Hein.
C'est ça, c'est ça.
Le contexte n'est pas très favorable.
Non, le contexte n'est pas favorable.
Et alors, puis surtout, quand on voit la désignation des membres de ce Conseil, bon... Bah, on a peut-être des doutes.
C'est le problème, parce que quand vous regardez le compte-rendu des débats du Conseil constitutionnel, même dans les années 80, où on s'est posé des questions à peu près analogues quand on a créé les cours d'assises spécialement composées en matière de terrorisme, parce que ça existe déjà, ça, où il n'y a pas de jury populaire. On en a beaucoup parlé pendant le procès, le dernier procès.
Tout à fait.
Et alors qu'en Belgique, par exemple, il y a des jurys populaires aussi pour juger les affaires de terrorisme. On considère que ça ne pose pas de problème.
Justement, parce qu'elles sont graves, en fait. Oui. C'est ça aussi, c'est ça, moi, qui m'a frappé quand j'ai commencé un peu à m'intéresser à la question, c'est de me dire, bah, en fait, les jurys populaires, ils ne sont pas là. Pour les petites affaires, pour qui seront à leur portée. Non, en fait, ils sont là au moment les plus intenses, à l'acmé d'un procès pour des affaires extrêmement graves, parce que c'est là où il y a plus besoin de citoyens.
C'est ça. Et justement, alors en 86, quand on a créé ces cours d'assises spécialement composées, elles ont failli ne pas être instaurées parce qu'au Conseil constitutionnel, vous aviez un président qui s'appelait Robert Badinter, qui avait une assise juridique un peu différente peut-être des membres du Conseil constitutionnel actuel. Et il y avait des débats véritablement passionnants, et le principe d'intervention du jury en matière criminelle a failli être consacré comme un principe constitutionnel. Ce qui aurait évité en fait la création de ces nouvelles cours criminelles sans jury. Sauf qu'il avait des opposants au Conseil constitutionnel, et finalement le Conseil ne s'est pas prononcé sur la question. Et du coup, l'idée, ça serait de faire en sorte que maintenant le Conseil se prononce. Donc ça, c'est le troisième terrain de lutte qui est plus sur le...
Donc on ne perd pas espoir malgré tout, on continue.
On ne perd pas espoir. Et puis, alors, quels arguments on peut invoquer déjà?
C'est ça aussi qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi, en fait, on a décidé que là, magiquement, on n'allait plus recourir autant au jury populaire. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y avait trois idées phares. La première, c'est qu'il faut faire des économies, comme dans tous les services publics. Voilà.
C'est étonnant, ça.
Vous avez déjà entendu cet argument?
Ça me sidère.
C'est curieux.
Mais c'est important de faire des économies, dis donc.
et oui, il se trouve que les jurés citoyens, ça coûte un petit peu d'argent, parce qu'on les indemnise, c'est royal, vous allez voir, 90 euros d'indemnité par jour, c'est royal.
Mais moi, j'en rêverais.
Vraiment, c'est une sinécure. On peut s'enrichir grâce à cela.
Tout à fait, c'est un business.
15 euros de frais de repas, royalement offerts par l'État, et un hébergement éventuellement, si le procès dure plusieurs jours. Alors, vous êtes indemnisé, je crois que quand vous êtes en province, c'est 90 euros, et à Paris, ça peut aller royalement jusqu'à 110 euros, parce que les hôtels coûtent un peu plus cher. Et encore, on fait attention quand même, parce que si la personne a le temps de rentrer chez elle le soir, on va pas l'indemniser pour un logement qui est plus proche du tribunal et qui l'arrangerait. Enfin bon, voilà. Donc, c'est pour faire ces économies-là.
Non, mais ils sont traités comme des rois en même temps, donc c'est bien normal de faire quelques économies.
Bien évidemment, faut pas exagérer quand même. Ne cédons pas trop. Deuxième chose, et ça pour le coup c'est un argument qui est plus recevable, c'est pour gagner du temps. Alors moi, de manière générale, la logique de gain de temps, j'y suis pas favorable, parce que je considère qu'en matière judiciaire, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il faut justement prendre le temps de bien juger, qu'on peut pas juger les gens comme ça, de manière expéditive, en claquant des doigts, comme on voit parfois en comparution immédiate, par exemple, où le sort de personnes qu'on va envoyer en prison est expédié en 20 minutes, dans des conditions abominables, parce que leur avocat a à peine eu le temps de consulter leur dossier. Et je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs judiciaires, malheureusement, qui se jouent justement dans les comparutions immédiates, ou alors des peines inadaptées, parce qu'on va être face à des personnes qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatrique très important, dont la place n'est pas en prison, mais serait plutôt en soins. Et cette logique de gain de temps, toujours est-il qu'elle est... On peut la comprendre, parce que il y a un temps très très long qui s'écoule entre le moment où une personne va être ce qu'on appelle mise en accusation devant une cour d'assises et le moment où elle est effectivement jugée. Il peut y avoir un délai de 1 an, voire de 2 ans qui s'écoule, et pendant ce temps-là, la personne accusée, très souvent, elle est en détention provisoire. Oui. Donc elle est déjà en prison, alors même que potentiellement la cour d'assises va pouvoir la quitter. Ce qui pose quand même un énorme problème. C'est aussi source, évidemment, de grandes frustrations et de grandes peines pour les victimes, en tout cas les plaignantes à ce stade-là, qui attendent le procès avec beaucoup d'attente. d'intention, beaucoup d'intensité. Donc oui, il y a vraiment un problème de temps. Mais ce problème de temps, il est essentiellement imputable au fait qu'on n'a pas assez de magistrats, on n'a pas assez de greffiers, et en fait,
oui,
on résout.
C'est ça, finalement, ce serait peut-être la meilleure solution pour gérer des affaires trop nombreuses, c'est d'avoir peut-être plus de gens pour les gérer.
Ah, donc, c'est ça. Mais vous connaissez notre gouvernement, plutôt que de recourir à cette solution qui consisterait à gonfler les effectifs pour avoir des effectifs calibrés en fonction de la demande, on préfère trouver des artifices procéduraux, des nouveaux process, parce que c'est un terme, des nouveaux process pour faire en sorte que ça aille plus vite sans avoir de moyens supplémentaires.
En plus, moi, c'est de ce que j'entends en fait auprès de mes camarades en droit, il me semble quand même qu'il y a énormément d'étudiants en droit, que justement la sélection est rude et qu'en fait il y a beaucoup d'étudiants qui aimeraient avoir des places dans ces filières pour étudier le droit et qui se retrouvent pour des raisons justement d'effectifs qu'on ne veut pas augmenter dans les universités notamment, à ne pas pouvoir se former et à ne pas pouvoir peut-être faire de futurs magistrats et magistrates.
C'est un problème qu'on retrouve à l'université, qu'on retrouve dans tous les services publics, cette logique de rationalisation des effectifs, du temps dans les hôpitaux et dans la justice. Du coup, on a eu cette idée de créer ces nouvelles cours en disant en fait on va gagner du temps sur la phase de tirage au sort qui est un petit peu longue, sur le jour de formation des jurés et sur l'audience elle-même, parce que ça c'est aussi un argument que pour ma part je reprends en faveur des jurés populaires, c'est que les audiences sont plus longues et parce qu'elles sont plus longues, on prend le temps de dire les choses, c'est-à-dire que l'accusé va pouvoir déjà donner son parcours. La première journée généralement, au moins la première demi-journée, elle est consacrée à la personnalité de l'accusé. L'accusé va parler de lui, après il y a la victime qui va parler d'elle, et je veux dire, ça va bien au-delà des faits qui ont été commis, et c'est aussi ça qui permet à certains moments, il y a des très belles scènes qui se passent aux assises de reconstruction du lien social, et c'est aussi ce temps qui par exemple permet parfois tout simplement à l'accusé d'admettre ce qu'il a fait, et pour la victime c'est quelque chose de réparant, de fou.
C'est clair qu'avoir cette reconnaissance de la part de la personne criminelle, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, là vous dites justement pour gagner du temps, etc., mais il me semble que c'est les cours criminels qui doivent remplacer en fait le recours aux cours d'assises, elles ont déjà été mises en place dans certaines juridictions, il me semble, comme une phase de test plus ou moins, et qu'en fait en janvier de cette année ça a été disons que ça a été acté que ça allait s'étendre. Je sais pas si ça a été mis en place tout de suite, mais en tout cas déjà ma première question c'est de savoir est-ce que y a eu un gain de temps, parce que normalement ils auraient dû avoir quand même du matériel pour étudier justement l'effet de ces nouvelles cours criminelles
départementales.
et ensuite la deuxième question aussi c'est de savoir est-ce qu'il y avait assez de personnel comme vous dites de magistrats avocats etc pour gérer ces nouvelles cours, pour faire en sorte que ça fonctionne, que ça puisse être effectivement mis en place sans provoquer trop de bouleversements.
Alors effectivement il y a eu une expérimentation qui a été menée depuis 3 ans entre 2020 et puis début 2023, et il y a eu un rapport qui a été rendu en octobre 2022 par un comité désigné à cet effet, un comité d'experts, qui a rendu un rapport et qui est assez accablant en fait pour ces cours criminels départementales, parce qu'il montre que cet objectif de gain de temps en vérité n'est pas rempli. Alors c'est plus complexe que ça. Alors déjà pour commencer, petite anecdote, ce rapport il aurait dû être publié sur le site du ministère de la Justice parce que c'était un rapport remis au garde des Sceaux.
Oui.
Et le garde des Sceaux ne l'a jamais publié, vous ne le trouverez pas sur le site du ministère de la Justice.
En même temps, c'est des méthodes qu'on commence à connaître.
Oui, c'est étonnant, c'est plus si étonnant. Et du coup, il a fallu que ce soit un sénateur écologiste, justement, qui était membre de ce comité, qui décide de son propre chef de publier sur son site internet. Mais sinon, on n'en aurait pas eu connaissance. Il y a même une scène, en fait, où vous voyez le sénateur interpeller en audience au Sénat le ministre sur cette question. Il lui dit le rapport est public, normalement, pourquoi vous ne le publiez pas? Et le ministre lui répond effectivement, le rapport est public, vous pouvez le publier si vous voulez. C'est un peu ça.
Voilà. Donc, en fait, ils tentent tout, ils essayent tout, ils disent peut-être ça passera.
Oui.
On ne le publie pas, et si jamais ils ne s'en rendent pas compte, c'est tant mieux pour nous.
Et alors, en gros, c'est cours criminel départemental. Vous avez un délai qui a été fixé par la loi pour aller plus vite, justement, qui est un délai de 6 mois entre le moment où la personne est encore une fois mise en accusation, donc il y a un juge d'instruction qui décide de la renvoyer devant une cour criminelle, et le moment où elle est jugée. C'est un délai de 6 mois, alors qu'aux assises, c'est 1 an. Donc, a priori, vous devriez constater un gain de temps d'au moins 6 mois, ce qui est pas mal, c'est pas non plus la panacée, mais ce qui est pas mal. Ce que dit le rapport d'expérimentation, c'est que ce délai de 6 mois, il a pu être respecté nulle part. Dans aucune juridiction test, si ce n'est une à Pontoise quand même, où on a fait un petit peu d'effort. Ce qui veut dire que dans les autres cas, Donc, dans la majorité des cas, il a fallu faire des demandes de prolongation exceptionnelle de détention provisoire. Alors, je répète ma phrase. Dans la majorité des cas, il a fallu faire des demandes exceptionnelles de détention provisoire. Vous voyez qu'il y a un problème dans la phrase.
Petite contradiction, peut-être.
Ça veut dire que l'exception devient la règle. Ça veut dire aussi que dans les dossiers où il y a des personnes qui sont accusées, mais qui ne sont pas détenues, ça arrive qu'il y ait heureusement d'ailleurs, qu'il y ait des accusés qui ne soient pas en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Eh bien, vu qu'on va prioriser les affaires où il y a des personnes détenues, ça veut dire que ces personnes-là vont attendre encore plus longtemps. Et ce qui est marqué dans le rapport, c'est qu'il y a même dans certains ressorts une pratique perverse qui s'est développée, qui a consisté à placer en détention provisoire des personnes qui ne méritaient pas de l'être, pour justement que ça aille plus vite pour elles.
C'est pas vrai.
Donc on les met en détention pour leur bien, ce qui est quand même extraordinaire.
Ah oui,
vous voyez un peu la logique.
C'est affolant là.
Pour que ça aille plus vite au niveau des délais. Donc ça c'est un deuxième point. Troisième point, ces cours criminels départementales rendent des arrêts, des verdicts de condamnation assez souvent, ces verdicts font plus souvent l'objet d'appels que devant les cours d'assises.
C'est intéressant.
Devant les cours d'assises, vous avez un taux d'appel de 15% des décisions. Devant les cours criminels départementales, c'est 21%. Ça veut dire que même à admettre que vous gagnez un petit peu de temps à l'audiencement, je vous disais, vous allez gagner 3-4 mois, ce temps-là, vous allez le perdre en aval parce qu'on va devoir rejuger plus souvent les procès. Et en plus, ça fait du coup un procès supplémentaire pour l'accusé, ce qui n'est pas forcément facile à vivre, un procès supplémentaire pour la victime. Et le temps d'attente entre les deux procès, en plus, lui aussi peut être très long. Ça peut être un an, ça peut être deux ans, ça peut être extrêmement long.
Et ça, j'imagine qu'en fait, c'est dû au fait justement que... sans l'apport en fait du regard peut-être plus naïf d'autres citoyens, mais en fait on a l'impression quand on est justement accusé et jugé coupable que le jugement a été rendu de manière peut-être arbitraire, partiale, parce qu'il n'y a pas eu en fait cet apport d'autres citoyens qui n'étant pas experts apporter peut-être une crédibilité en fait.
C'est ce que je pense aussi, parce que alors quand j'ai appris en lisant le rapport qu'il y avait un taux d'appel plus important, je me suis dit c'est peut-être tout simplement parce que les magistrats professionnels tabassent plus, donc ils prononcent des peines plus importantes. Et en fait, j'ai regardé le rapport en entier, et en fait non. Les magistrats professionnels rendent des peines à peu près équivalentes. Enfin, elles sont peut-être légèrement plus fortes pour certaines infractions. Par exemple, les vols à main armée. Les magistrats tapent un petit peu plus fort sur les vols à main armée que les jurés citoyens. Mais ça se joue quoi à 6 mois d'emprisonnement près en moyenne. Donc, c'est pas non plus des taux de condamnation ou même des peines prononcées plus importantes.
Et donc, en fait, c'est plutôt sur la durée de la peine, mais pas forcément sur le fait de rendre coupable ou pas la personne.
C'est ça. Le taux de condamnation est à peu près équivalent et la peine est très légèrement supérieure pour ces affaires-là, et en plus elle est même légèrement inférieure pour les affaires de viol. Les magistrats condamnent à des peines un tout petit peu inférieures de quelques mois près pour les affaires de viol. Donc vous voyez, c'est un peu gênant, et malgré tout il y a plus d'appels. Alors qu'on devrait se dire que le taux d'appel devrait être équivalent, et je pense justement que ce que vous avez dit, ce qui justifie ce taux d'appel plus important, c'est que l'audience se passe moins bien. L'audience a moins de légitimité de par l'absence des jurys populaires, et puis elle a moins de prise tout simplement sur la personne qui se sent pas jugée par ses pairs. Et jugée par ses pairs, c'est aussi quelque chose d'important. Et alors
on est plus jugé par un système, on a plus l'impression en tout cas d'être jugé par un système judiciaire que par la société.
On a moins l'impression d'être jugé par des gens comme nous. Exactement.
Est-ce qu'avant les audiences, on explique aux accusés qui peuvent justement bénéficier du coup des jurys populaires, parce que je pense qu'il y a dans certains cas, il y a certains accusés qui ignorent totalement du coup l'existence des jurys populaires, vu que tout le monde n'a pas une formation en droit, ou même c'est un sujet où c'est des trucs qui échappent souvent.
En fait, le jury populaire, il aurait pu s'imposer parce que, en gros, ça dépend de la peine que vous encourez. Si vous encourez une peine de criminel, entre 15 et 20 ans, de toute façon, vous allez passer devant une cour criminelle départementale où il n'y aura pas de juré. Depuis 2023, c'est comme ça. Et par contre, si vous encourez une peine supérieure, donc vous encourez par exemple 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre, pour assassinat, pour empoisonnement ou la perpétuité, dans ce cas-là, automatiquement, vous allez passer devant une juridiction avec des jurés. Donc, il n'y a pas comme aux États-Unis, mais c'est intéressant la question, parce qu'aux États-Unis, par exemple, les accusés ont le choix. S'ils veulent, ils ont le droit constitutionnel à bénéficier du juré, mais ils peuvent y renoncer s'ils veulent. Et vous avez des accusés qui n'acceptent pas de faire un plaidé coupable, ce qu'on disait tout à l'heure, mais qui vont choisir malgré tout de renoncer leur droit constitutionnel à être jugé par un juré pour être jugé par un magistrat professionnel. Il y a très peu qui le font. Hein. C'est à peu près 1% des accusés. Ils préfèrent généralement être jugé par un juré professionnel. Mais dans les affaires très particulières, ça peut se justifier. Et donc, pour revenir sur cette idée de gain de temps, il y a un autre problème avec ces cours criminelles départementales, c'est qu'elles fonctionnent avec 5 magistrats professionnels. Alors que les cours d'assises, c'est 3 magistrats.
Donc c'est en plus davantage de place pour les experts, finalement.
C'est davantage de place pour les experts, et ça veut dire qu'il faut aller les chercher quelque part. Ces 5 magistrats, ils ne vont pas tomber du ciel. Qui sont ces magistrats? Alors, le président, ça restera un président d'assises qui va devenir pour l'occasion président de cour criminelle. Et les 4 autres, les 4 magistrats assesseurs, c'est des magistrats qui habituellement sont des juges aux affaires familiales, ce sont des juges d'instruction, ce sont des juges d'instance.
Dont on n'a absolument pas besoin, dans d'autres.
Exactement. Et du coup, ces personnes-là, elles vont venir ponctuellement siéger dans ces cours criminelles. Et ce qui a été établi par le rapport, et moi je le vois dans des tribunaux avec des magistrats que je connais qui m'en parlent, c'est que ça augmente leur charge de jugement criminel d'un peu près 50%. Donc là où ces assesseurs, ils passaient, mettons, je ne sais pas, aller 2 semaines aux assises jusqu'en 2022, ils vont passer 3 semaines, voire 4 semaines en cours criminel, 4 semaines pendant lesquelles ils ne pourront plus travailler leur contentieux de base. Sachant qu'on sait très bien qu'en France, la justice va parfaitement vite, qu'aux affaires familiales, il n'y a pas du tout de retard dans le prononcé. Donc en fait, vous gagnez un peu de temps, effectivement, à l'audiencement des affaires criminelles, pas autant de temps qu'envisageait le gouvernement, vous en gagnez un tout petit peu, mais au prix d'un taux d'appel plus important, et au prix de dépeupler de magistrats les autres affaires qui le mériteraient.
Mais je ne comprends pas, parce que les magistrats et tout le personnel finalement de l'institution judiciaire, ils sont débordés, on le sait qu'ils croulent sous les affaires et qu'ils ont du mal à traiter tous les dossiers, qu'ils le font trop vite et qu'eux-mêmes sont frustrés. Mais comment c'est possible que cette loi soit passée sans qu'on en ait plus entendu parler, quoi, qu'il y ait eu un mouvement plus largement tous les membres en fait, de cette corporation?
Pour moi, il y a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est que c'est une loi qui a été... La loi de généralisation, en tout cas, elle a été votée le 22 décembre 2021. Elle s'appelle d'ailleurs « Loi de confiance pour l'institution judiciaire », ce qui est assez drôle au regard de son contenu, il faut quand même reconnaître. Parce que je vois pas tellement comment on retisse la confiance des citoyens à la justice en les séparant et puis en exfiltrant les jurés citoyens des tribunaux.
Ça s'appelle la mauvaise foi.
Oui, exactement. Vous auriez dû l'appeler comme ça, loi de mauvaise foi.
Ça dénonce ce matin.
Oui. Alors déjà, c'était un sombre hiver Covid-19, en fait, donc on avait d'autres chats à fouetter, on en a très peu parlé. D'autre part, je pense de toute façon qu'il y a une capacité de mobilisation malheureusement qui n'est pas gigantesque dans le milieu judiciaire. Ça peut arriver sur des points très particuliers, quand on va remettre en cause certaines de leurs pratiques professionnelles. Par contre, quand il s'agit de remettre en cause le jury citoyen, c'est pas évident qu'ils se mobilisent pour cette question-là. Et il a fallu attendre, en fait, novembre dernier, avec la tribune que j'ai pu publier dans Le Monde.
Ça a repris effectivement beaucoup d'intensité.
C'est ça. Mais il a fallu vraiment attendre ce moment-là pour que... Et puis aussi, faut reconnaître, il y a beaucoup de démissions quelque part. Enfin, il y a beaucoup de magistrats, d'avocats qui partent du principe que les dés sont déjà lancés, qu'on ne peut pas revenir en arrière et que le combat est déjà perdu. Mais justement, le fait qu'on soit arrivé à donner à ce combat une certaine publicité, qu'on en ait beaucoup parlé en début d'année, qu'il y ait cette pétition, cette proposition de loi, ces projets de juridiques de questions prioritaires de constitutionnalité...
Puis là, je dirais qu'il y a comme un petit quelque chose dans l'air qui pourrait vous aider aussi, vous porter peut-être un peu.
Tout à fait. Oui, en plus, il se passe beaucoup de choses qui font que la démocratie, les questions démocratiques reviennent au centre des débats. Du coup, c'est le bon moment de la poser. Et puis, il y a aussi la question qui est très, très importante, qui est l'angle féministe de la question. L'angle féministe de la question est extrêmement important.
C'est intéressant.
Oui, on va en parler. Parce que qu'est-ce que ça signifie, finalement, ces cours criminels départementales? Ça veut dire essentiellement que les viols, parce que ça représentait 90% du contentieux de ces nouvelles cours criminelles. Donc, c'est presque des juridictions faites spécialement pour les viols, en fait. Hein. C'est ça aussi qu'il faut avoir.
Donc c'est pour faire sortir le viol en fait
des assises. Donc ça veut dire que désormais on a presque une sorte de super tribunal correctionnel ou de sous-cour d'assises, c'est selon, qui équivaut symboliquement en tout cas à faire du viol une forme de sous-crime. Et vous savez que la semaine dernière il y a eu un hommage qui a été rendu par le président de la République, très hypocrite d'ailleurs, à Gisèle Halimi.
Je crois que nous n'y sommes pas allés.
Je crois que vous n'étiez pas les seuls, parce qu'il me semble que la grande majorité des organisations féministes l'ont également boycotté. Alors pas seulement à cause des cours criminels, bien évidemment, mais en partie à cause des cours criminels départementales.
D'accord.
Parce que je rappelle qu'un des combats de Gisèle Halimi, ça a été de faire en sorte que le viol, justement, soit jugé comme sont jugés les crimes de sang. Et aujourd'hui en France, depuis 2023, je regrette de le dire, mais les viols ne sont plus jugés comme des crimes de sang. Il n'y a plus le regard citoyen. Et d'ailleurs, dans les quelques sollicitations médiatiques que j'ai pu avoir depuis que je mène ce combat, il y a des sollicitations qui viennent de médias étrangers. J'ai eu des sollicitations de médias britanniques ou belges ou suisses. Et la première question qu'ils me posaient systématiquement, c'était pas la question démocratique, c'est pas ça finalement qui les bouleversait le plus, c'était plus « Mais pourquoi en France, vous faites une juridiction spéciale pour les viols où il n'y a plus de citoyens ?»
C'est incroyable parce qu'en fait, c'est... En fait, disons que c'est... Ben, moi, je pensais pas que la situation était telle, parce qu'en fait, il faut se pencher sur les effets de cette réforme-là. Et c'est vrai que sinon, dans l'intitulé, il n'y a pas forcément cette dimension, justement, qu'on va écarter les viols. En fait, il faut aller fouiller pour se dire, les peines de moins de temps, c'est effectivement, ça concerne majoritairement, en fait, les viols.
Oui, c'est ça. En fait, alors, les infractions théoriquement concernées, c'est les viols, c'est les vols à main armée, donc les braquages. C'est ce qu'on appelle les violences mortelles, donc les coups qui entraînent de la mort mais sans intention de la donner, vous n'aviez pas l'intention de tuer, sinon on qualifie ça de meurtre, et c'est les tortures avec de barbarie. Donc sur le papier, vous avez ça. Mais en pratique, ce sont essentiellement les viols, je vous dis, 90%, entre 88 et 90%, si bien d'ailleurs que dans certaines cours d'assises, enfin jadis cours d'assises, vous n'aurez en fait presque plus jamais d'intervention du jury populaire, parce qu'il faut savoir que dans certains territoires de notre pays, les assises jusqu'à présent étaient jugées des affaires pour 90-95% qui étaient des viols. Donc les cours d'assises n'interviendront plus dans ces cas, dans ces territoires-là, que dans 5-10% des affaires. Les jurys citoyens vont quasiment disparaître du paysage dans certains de nos territoires.
Alors qu'en plus, j'ai quand même l'impression que pour faire évoluer les mentalités justement sur la question du viol et la culture du viol dans laquelle on s'inscrit, le fait d'inclure les citoyens dans la procédure du jugement, du procès, c'est vraiment essentiel en fait.
C'est fondamental. Enfin, je veux dire, on est à une période où, soi-disant, en tout cas, pour le coup, c'est officiel, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ça a été érigé en grande cause nationale.
Pour la deuxième fois de suite, c'est reconduit pour le second quinquennat.
Exactement, ça a été reconduit. En plus, on parle beaucoup de libération de la parole des femmes, etc. Et on désire que les citoyens s'associent à cette lutte-là. On veut absolument qu'ils soient plus sensibilisés à ce que ça représente véritablement, concrètement, les violences sexuelles, les violences sexistes. Et quand vous allez aux assises, vous apprenez justement, vous apprenez qu'est-ce que c'est que le consentement. Vous n'allez pas ressortir des assises avec les mêmes préjugés que vous avez que sur la notion de consentement. Notion de consentement qui d'ailleurs n'apparaît pas dans les textes de loi, ça faut le savoir. On a la notion de violence, contrainte, menace ou surprise, mais on n'a pas la notion de consentement dans notre droit, ce qui est assez intéressant.
C'est peut-être pas mal de revoir ça aussi.
Oui, ça serait pas mal. Hein. Ça serait pas mal.
Plein de choses à revoir.
Ouais, puis vous voyez que les viols, ça se passe pas exactement comme vous l'envisagez quand vous connaissez, que vous n'avez pas eu affaire à ce type d'affaires. On pense souvent que c'est dans la ruelle sombre, machin, vous êtes entraîné. Alors ça, c'est des choses qui arrivent, mais très souvent, c'est en fin de soirée, c'est dans un contexte alcoolisé.
Et souvent, les victimes connaissent.
C'est des proches, c'est des membres de leur famille. Et ça, vous pouvez pas vous en rendre compte en tant que citoyen si vous le voyez pas par vos propres yeux. Ou alors, il faut vous documenter, mais vous n'avez pas forcément le temps de vous documenter sur la question. Là, au moins, vous le voyez, vous revoyez certains préjugés, et c'est quelque chose de très important. Ça, c'est ce qui apparaît dans toutes les enquêtes sociologiques, anthropologiques, ethnologiques qui ont été faites sur les jurys populaires, sur la base d'entretiens qu'on a eu avec les anciens jurés. C'est qu'ils ont tous changé de regard sur ces infractions-là. Pas que sur ces infractions-là, mais ils ont vraiment changé de regard sur la nature des rapports humains en matière de sexualité. Ils ont changé de regard sur la manière dont c'est traité d'un point de vue médiatique. Ce sont des éclosions citoyennes. Le fait de participer à un juré, ça permet d'avoir cette éclosion citoyenne. Et je dirais même que les jurés, c'est pas seulement des jurés, c'est des porte-voix. Parce que ce qu'ils ont vécu au procès, ils ont tendance à en parler autour d'eux. Ils en parlent parce que c'est marquant comme expérience, bien sûr. Donc vous en parlez à vos proches, vous en parlez à votre famille, à vos amis. Et du coup, tous ces gens-là vont aussi avoir une autre perception, un autre angle pour envisager, penser les questions de justice.
Je pense que on va continuer sur cette réflexion, parce que c'est hyper intéressant de voir aussi quel impact ça a sur les membres du jury. Mais on va peut-être se faire une petite pause en écoutant la voix d'une femme qui va nous parler de doute avec Malkit. Je suis désolée si je le prononce mal, mais qui signifie en français « je n'ai pas trouvé ».
Thank you.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous venez d'écouter la voix vibrante d'Emel Matlouti qui chantait Malkit. Et maintenant, de retour au studio avec Mariam, Alix et moi-même. Et bien sûr, notre invité du jour, Benjamin Fiorini. Donc, bon, toujours maître de conférence à Paris 8.
Ça n'a pas changé.
Voilà. Qui continue donc à nous parler des jurys populaires. Et de là, notamment, nous étions sur, finalement, l'impact que la participation à un jury populaire, finalement, produit sur les jurés eux-mêmes. Et voilà, est-ce que peut-être, moi ça me fait beaucoup penser en fait à la Convention citoyenne pour le climat, où il y a eu pas mal de gens, enfin bon, il y a eu les gens tirés au sort, etc., qui ont été formés. Et après leur formation, peu importe d'où ils venaient, ils étaient tous convertis à l'écologie, à la nécessité de réduire justement notre consommation, donc la théorie de la décroissance, etc. Et en fait, on s'aperçoit qu'en réalité, pour changer les choses, pour sortir du système capitaliste, en fait, il suffit d'éduquer les gens. C'est-à-dire que quand on leur apprend les choses, quand on leur fait comprendre les enjeux, bon, ben en fait, ils se rendent assez vite à l'évidence. Et est-ce que c'est un peu le même processus ?
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, je vous dis, il y a vraiment un avant, un après. L'avant, c'est que les jurés, ils arrivent, ils sont tétanisés. Encore une fois, ils ont un peu peur de la lourde responsabilité qu'on va leur confier. Ils ne se sentent pas légitimes, d'ailleurs. Ils ne se sentent pas légitimes parce qu'ils pensent que c'est une affaire de professionnel que de juger les gens. C'est un peu comme les personnes voilà, qui ne votent pas parce qu'elles se sentent pas légitimes à voter ou qui ne veulent pas s'investir en politique parce qu'elles considèrent que c'est un métier. Voilà. Il y a un peu cette logique-là. Deuxième chose, la plupart des gens, alors ça serait un peu la version populiste, hein, quand ils arrivent, ils sont sur une logique assez carcérale, hein, très clairement, assez répressive. Ils ont tendance à considérer que les gens qui commettent des meurtres, qui commettent des viols, la plupart du temps, ils méritent la peine maximale, voire systématiquement la peine maximale. Et puis il y a cette phase de formation du jury dans un premier temps, et puis il y a la deuxième phase où, mise en responsabilité, ils vont devoir écouter les débats, écouter le parcours de l'accusé, écouter le récit de la victime, écouter tout cela, les experts, les témoins. Déjà, il faut savoir qu'au moment de l'audience, ils ont véritablement une écoute extraordinaire. Une écoute que les magistrats n'ont pas ou n'ont plus, malheureusement. Ce qu'on ne peut pas forcément leur reprocher, entre guillemets, c'est simplement que ça devient une habitude professionnelle.
Oui, alors que pour un jury, c'est exceptionnel.
C'est exceptionnel. Et puis, en plus, c'est un moment où on leur demande de prendre part à une décision rendue au nom de la collectivité. C'est quelque chose de symboliquement important. Ils sont véritablement investis par cela. Je ne dis pas que les magistrats jugent mal. Ce n'est pas tellement ça mon propos, mais c'est de dire que tous, dans le cadre de nos métiers, on finit par avoir des habitudes, on finit par avoir des lassitudes. Vous savez, moi j'ai travaillé avec des magistrats assez souvent, j'ai assisté à des autopsies par exemple, et j'ai vu des médecins pendant des autopsies en train de siffloter des airs de cartoon, parce qu'ils ont un rapport au corps, au cadavre, qui n'est pas le rapport que j'ai au cadavre, qu'on a au cadavre, ils ont cette habitude.
C'est une sorte de banalisation du quotidien qui est assez naturel.
C'est ça, c'est une sorte de banalisation. Et puis je pense que les magistrats, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand vous jugez votre 100e, 150e, 200e affaire de viol, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a des récurrences dans les récits qui vous sont faits. Et vous pouvez avoir l'impression voilà, que vous savez déjà à peu près si la personne est coupable et quelle peine vous voulez lui mettre. Vous pouvez avoir ces réflexes-là, qui sont des réflexes de professionnels, justement. Et le fait d'avoir des jurés, ça permet justement aussi aux magistrats de toujours rester en éveil, quoi, de toujours avoir ce dialogue avec les citoyens. C'est aussi très bon pour les magistrats. Ça leur permet de ne pas se reposer sur leur laurier, et ça permet justement à ces citoyens de faire profiter à la justice de cette écoute exceptionnelle. Et ce qui ressort, et comment ils ressortent alors les jurés de cette expérience, ils ressortent transformés. Autre perception de leur rôle de citoyen. C'est-à-dire que leur rôle de citoyen, désormais, c'est plus d'aller une fois tous les 5 ans ou tous les 3 ans mettre un bulletin dans une urne pour décider des gens, sachant que voilà, que en plus le mode de scrutin n'est pas forcément optimal pour être très représentatif.
Ah, ça.
Voilà. Donc c'est plus ça. Maintenant, ils ont conscience que être citoyen, c'est aussi prendre part concrètement à la vie de la collectivité. La démocratie participative.
Merci.
Avec
Mais le, ça, mot, mais le mot est,
le mot est lâché. Voilà. On peut encore oser prononcer ce mot. Mais c'est ça. Et du coup, il y a beaucoup d'engagements associatifs, par exemple, et beaucoup de jurés vont avoir des engagements associatifs.
Donc ça déclenche vraiment une ferveur démocratique, là.
Oui. Alors, je peux pas vous faire des statistiques en vous disant qu'il y a 90% qui font ça, mais en tout cas, il y en a un nombre substantiel. C'est ce qui ressort de toutes les enquêtes, encore une fois, ethnographiques, ethnologiques et tout. beaucoup plus grande prudence dans la manière d'aborder les médias. Donc quand vous avez un très grand professeur de droit du type Cyril Hanouna qui vient vous dire sur un plateau ce qu'il faudrait faire tout de suite dans l'immédiat, juger dans l'immédiat
sans passer par un procès. Franchement, c'est une broutille, les procès, c'est long, c'est compliqué.
On perd du temps avec tous ces process. On perd du temps avec tous ces process. Donc vous avez une certaine acuité pour démonter ce discours-là, pour savoir ce qu'il en est véritablement de juger. Qu'est-ce que ça fait en fait de juger ses pairs, parce que c'est dur aussi comme mise en situation. Comment on fait pour juger quelqu'un qui est son semblable, et ça questionne aussi sur sa propre légitimité à le faire. On se sent légitime à le faire parce qu'on le fait bien, parce qu'on prend le temps justement de bien écouter, parce qu'on prend le temps de bien comprendre, parce que on le fait, c'est ce que dit le texte, hein, selon son intime conviction. L'intime conviction, c'est quelque chose qui se forge au regard de tous ces éléments là
d'où la nécessité d'avoir quand même une procédure relativement longue. Oui. Puisque ça permet ce temps de réflexion, ce temps de remise en cause.
Évidemment, et par exemple les viols, on en parlait tout à l'heure, des viols qui vont encore une fois être 90% du contentieux de ces cours criminels. Je vous disais, ça se juge à peu près en 2-3 jours en France, généralement 2 jours.
Ce
qui est déjà relativement court, mais ce qui va aussi donner ce temps peut-être à l'accusé de finir par admettre ce qu'il a fait, ce qui va donner le temps aux personnes de discuter en fait, parce que telles qu'elles n'ont plus le temps de discuter, on va commencer à amorcer une reconstruction du lien social encore une fois. Devant les cours criminels, vous savez combien de temps ça dure ? Ça dure un jour. Un viol, maintenant, c'est jugé en un jour.
D'accord.
La plupart, pas tous, mais la plupart des viols, maintenant,
c'est jugé en un jour. C'est vrai que c'est pas complexe, généralement, comme affaire.
Est-ce que le viol est vraiment considéré comme un crime en France ? C'est ça, la question.
Normalement, je le rappelle.
Oui, mais théoriquement, maintenant, mais dans les faits.
Maintenant, dans le code, ça sera toujours considéré comme un crime, mais symboliquement, ça sera plutôt un sous-crime. Enfin, ça sera jugé par une juridiction intermédiaire entre le tribunal correctionnel et la cour d'assises.
Et moins vite, donc moins bien.
Et d'ailleurs, alors je reviens quand même, tout à l'heure, vous me demandiez quels étaient les arguments du gouvernement pour défendre sa réforme. De ce point de vue aussi, il y avait quelque chose d'intéressant quand même, et ce qui permet de comprendre d'ailleurs pourquoi c'est essentiellement les viols qui sont concernés, c'était la question de la correctionnalisation.
Alors qu'est-ce que c'est que ça ?
La correctionnalisation, c'est un processus judiciaire qui consiste à qualifier des faits de viol, non pas comme étant des viols, mais comme étant des agressions sexuelles. C'est-à-dire que vous oubliez une circonstance des faits, qui en l'occurrence la circonstance de pénétration, si vous voulez être très précis sur la question. Et cette sous-qualification, ça rend l'infraction commise symboliquement et selon le code pénal moins grave, et ça fait qu'au lieu de passer devant un cour d'assises, elle passe devant un tribunal correctionnel. Un tribunal correctionnel qui, lui, n'est composé que de 3 magistrats professionnels, où les délais d'attente sont moins importants et ça permet d'aller plus vite. En quelque sorte. Et ça, c'est un processus qui est mis en place depuis très très longtemps, depuis une trentaine d'années. On correctionnalise à tour de bras des affaires de viol. Donc il y a beaucoup de viols qui ne sont pas jugés pour ce qu'ils sont. Ils sont jugés comme étant des agressions sexuelles.
Et là, ils sont jugés justement parce que la victime demande à ce que ce soit jugé de cette façon, ou c'est par laisser-aller, tout simplement, parce qu'il n'y a pas le temps.
Ça dépend des voies procédurales. Parfois, le procureur, si vous voulez, qui est censé choisir la qualification initiale, donc est-ce que c'est un viol, est-ce que c'est une agression sexuelle, peut faire ce qu'on appelle une correctionnalisation ab initio, donc au tout départ. À ce moment-là, l'avis de la victime n'est pas demandé. Par contre, si l'affaire passe à l'instruction, donc il y a un juge d'instruction qui s'en empare, que le juge d'instruction regarde des éléments d'enquête, constate que manifestement c'est un viol, là, pour que ce soit correctionnalisé, il faut l'accord de la victime. Et quelquefois, la victime donne son accord parce que justement, elle veut aussi aller plus vite, elle est conseillée par son avocat pour le faire, etc. Mais c'est quand même une catastrophe. Hein,
Que ce soit fait avec l'accord ou pas, c'était simplement pour me rendre compte. Oui. De la situation.
Et l'idée des cours criminels départementales, justement, c'était de dire, vu qu'on va gagner du temps par rapport aux cours d'assises, on va gagner du temps à l'audiencement, ça va permettre de juger plus d'affaires de viols pour ce qu'elles sont, à savoir des viols. Donc il y avait cette idée-là qui n'était pas inintéressante, encore une fois. Sauf que là encore, ce que dit le rapport d'évaluation de 2022, vous irez le voir en page 27 et suivante. Oui, il est assez calamiteux. Et ce que dit ce rapport, c'est qu'en fait, il n'y a aucune décorrectionnalisation qui a été constatée pendant la période d'expérimentation. Alors plus exactement, il y a des départements où on a pu la mesurer, on a vu qu'elle était nulle, donc il n'y a pas de décorrectionnalisation, et il y a d'autres départements où on n'avait pas les instruments statistiques pour la mesurer, mais selon le ressenti même des acteurs du terrain, il n'y a pas eu de décorrectionnalisation. Parce que la correctionnalisation, c'est aussi un mécanisme culturel, en fait. C'est que c'est rentré dans les habitus, c'est une question de culture, puis finalement, la victime, si elle est d'accord, pourquoi pas. Enfin, il y a un peu cette logique-là. Donc, c'est toujours la même chose, en fait. C'est que plutôt que de donner des moyens à la justice pour permettre que ce soit des faits qui soient véritablement jugés comme des crimes, avec en plus le regard citoyen, ce qui est signe d'une bonne justice.
Comme tout crime,
Comme tout crime, voilà. milieu, comme tout crime, eh bien, on fait des espèces de sous-catégories pour grignoter un peu de temps et grappiller un peu d'argent. Donc, c'est ça la logique. Et puis, et d'ailleurs, je vous ai parlé tout à l'heure de l'objectif financier. Je vous ai dit, les cours criminels départementales, ça va faire des économies.
Bah oui, est-ce que ça fait des économies?
Mais c'est même pas si sûr que ça, si vous lisez le rapport. Alors, si vous lisez le rapport, en fait, il y a une sorte de tableau comparatif. En gros, qu'est-ce que ça coûte 6 jurés citoyens, qu'est-ce que ça coûte 5 magistrats? C'est un peu ça la comparaison.
Oui, c'est
vrai. Enfin, 6 jurés citoyens plus 3 magistrats pour les assises et puis 5 magistrats simplement pour les cours criminels. Et vous constatez, si vous lisez le rapport, qu'il y a une différence par jour de 1000 euros. Donc c'est pour 1000 euros par jour qu'on sacrifie le jury populaire quand même. Je ne sais pas si on se rend compte du truc énorme. Enfin, c'est énorme.
Non, mais ça, c'est la cantine à 15 euros. Hein, ça, je
pense. C'est ça, c'est la cantine à 15 euros, puis les hébergements à 80 euros en province. Enfin, je veux dire, c'est très excessif. On pourrait trouver un Airbnb à 20 balles, tranquille.
Voilà.
Ou aller au camping, quoi. Je ne sais pas pourquoi on ne va pas au camping. Mais bon. Et alors, le problème, c'est qu'après que le rapport a été rendu, il y a deux arrêtés qui ont été pris par le garde des Sceaux qui ont augmenté la rémunération de certains magistrats qui viendront siéger dans ces cours criminels pour que la fonction soit plus attractive. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas trouvé beaucoup de volontaires. Ce qui fait que, au final, le gain financier, si vous faites un savant calcul, vous apercevez qu'il n'est pas de 1000 euros par jour d'audience, il est de 700 euros. Quoi. 700 euros par jour d'audience.
Pour 700 euros?
Et en plus, ce que dit le rapport, c'est que pour vraiment qu'elles permettent de gagner du temps, ces cours criminelles, il faut qu'elles puissent juger et qu'elles puissent siéger en même temps que les tribunaux correctionnels qui jugent les délits. Et en même temps que les cours d'assises qui vont continuer à juger les infractions les plus sévères non punies. Parce que si elles les remplacent, ça n'a aucun sens. Enfin, ça veut juste dire qu'on change de juridiction.
C'est des vases communicants.
C'est des vases communicants. Donc il faut vraiment qu'elles puissent siéger ensemble. Problème, il n'y a pas assez de magistrats. Donc ça suppose qu'on recrute un nombre très très important de magistrats. Alors ça, c'est une bonne chose d'ailleurs, entre parenthèses. Il faut recruter effectivement des magistrats, quoi qu'il en soit. Mais là, il faut en recruter encore plus pour que ces cours criminels.
Et déjà qu'on a du mal à le faire en temps normal.
Oui, alors le garde des Sceaux a fait une annonce récemment. Il a dit qu'à l'horizon 2027, il y aurait un gros recrutement de 1500 magistrats, 1500 greffiers. Mais à l'horizon 2027, c'est donc dans 4 ans.
Ah oui,
alors que les cours criminels départementales, c'est maintenant.
Oui. Oui.
Ça veut dire qu'on assume le fait qu'elles vont juger pour l'instant en situation de pénurie. Et d'ailleurs, je vous donne un exemple. Tribunal judiciaire du Mans, dans la Sarthe, à cause de ces cours criminels qui sont du coup très consommatrices de magistrats parce qu'il en faut 5 au lieu de 3, eh bien le tribunal de police, donc c'est le tribunal qui est chargé de juger toutes les contraventions qui sont contestées, va fermer pendant 6 mois. Donc allez tous commettre des contraventions au Mans, vous risquez rien.
C'est pas vrai.
Oui, il va être fermé pendant 6 mois, avec en plus des problèmes de prescription, parce que les contraventions ont un délai de prescription très court. Donc il y a pas mal de personnes, bah, tant mieux pour elles, j'ai envie de dire, hein, qui vont échapper à une condamnation pour contravention.
Oui,
et puis vous avez 15 audiences correctionnelles, donc 15 audiences prévues pour les délits sur l'année qui vont également partir. Donc ça veut dire 3 semaines, quoi, 3 semaines d'audience à cause de ces cours criminels. Donc il va falloir recruter plus de magistrats. Et accessoirement, ce qui n'est pas non plus un problème neutre, il va falloir suffisamment de salles d'audience. Et actuellement, il n'y en a pas. Parce que la justice est pauvre en salles d'audience.
Ni le personnel, ni les locaux.
Donc pour l'instant, les cours criminelles, si vous voulez, elles siègent là où normalement siègent les assises, du coup elles peuvent pas siéger ensemble, du coup on gagne pas de temps.
Bah non.
Soit elles jugent, elles délibèrent, enfin elles siègent là où il y a les tribunaux correctionnels, du coup c'est les tribunaux correctionnels qui peuvent plus siéger.
Je propose des cours criminels départementales de plein air.
Ça serait
parce
bien.
Parce qu'en plus, les beaux jours arrivent.
Oui.
Donc pendant 6 mois de l'année, voilà, petit pique-nique.
Bah oui,
pour aller juger des viols tous ensemble.
Mais c'est mais ça serait pas mal. Et pour la question des locaux, le rapport le dit aussi. Hein, il dit qu'il faut raconter plus de magistrats, il faut créer des locaux. Et du coup, pour savoir si véritablement ces cours criminels départementales apportent un gain financier, y compris ce gain de 700 euros dont je viens de vous parler, faut encore compliquer l'opération avec ce que va coûter l'audience.
Ouais.
Donc ça veut dire que même si vous prenez la réforme dans une optique managériale gestionnaire, même de ce point de vue-là, c'est foireux. Cette réforme est en réalité purement dogmatique.
Donc en plus, vous voulez nous dire que les gestionnaires de la République qui nous pondent cette réforme, en plus, sont de mauvais gestionnaires.
Et en plus,
ce
sont des mauvais gestionnaires. Mais je pense encore une fois qu'ils sont dogmatiques, c'est-à-dire qu'ils pensent que ça va finir par fonctionner. Ils pensent peut-être que ça va finir par fonctionner, je ne sais pas, par une sorte de baguette magique qui font que les magistrats vont finir par s'acclimater au milieu juridique qu'on leur crée, mais en réalité, ça ne fonctionnera pas.
Alix, je crois que tu avais une intervention. Je pense que c'est vraiment une question qui est assez générale de se dire... on est vraiment dans un moment où le gouvernement et puis le personnel politique voient notre démocratie comme une entreprise, donc à gérer avec des stratégies managériales, donc à base de vocabulaire aussi entrepreneurial assez succulent, et tout ça pour finalement dépolitiser en fait ce qui est l'organisation d'un pays. Donc on le voit, plutôt que de penser l'investissement des citoyens dans la gestion de leurs propres institutions, on va favoriser des politiques managériales qui sont plutôt, moi je dirais, des logiques que des politiques finalement managériales, qui en fait n'ont même pas forcément de légitimité pécuniaire, on va dire. Donc c'est encore plus affligeant.
Le peuple est préoccupé par le travail jusqu'à 64 ans, donc c'est un peu compliqué.
Et bah c'est magnifique. Je pense que tu nous offres une superbe transition pour notre prochain sujet, et moi j'aimerais bien l'introduire par une petite musique des Femmes T, un groupe féminin et féministe qui va sortir son prochain album le 24 mars, donc dans pas longtemps du tout, et on va avoir du coup la chance d'écouter Mon drapeau rouge.
manque de fonds, notamment de courtoisie. Pardon.
Vous venez d'entendre Mon drapeau rouge, donc un nouveau titre de l'album des Feux Moustiques qui sortira le 24 mars de cette année, Résistante au pluriel. Et si vous avez aimé ce son que nous venons de diffuser, sachez que une interview du groupe sera diffusée le mercredi 12 avril entre 20h30 et 22h30 sur Orage Mécanique, une autre émission que vous avez le plaisir d'écouter sur cette même radio libertaire. Du coup, je vous donne rendez-vous le mercredi 12 avril pour écouter cette interview. Et à présent, nous allons revenir à notre sujet pour le quart d'heure qui nous reste, avec notamment une expérience, Mariam, que tu voulais nous partager en lien un petit peu avec ce monde de la justice.
Oui, du coup, c'était mon expérience, c'était dans le cadre d'un de mes cours de sociaux, qui est les introductions aux méthodes quantitatives. Et le projet, c'était d'aller au tribunal de Paris et de faire des observations, d'assister à des audiences au tribunal correctionnel. Et du coup, forcément, j'ai retenu pas mal de trucs et c'était aussi pour moi l'occasion de m'introduire un peu dans le milieu du droit parce que je ne connaissais absolument pas. Du coup, j'ai fait des petites recherches de comprendre le fonctionnement d'un juge, de comment fonctionnent justement les audiences. Parce que forcément, je pense que c'est un truc qui échappe à plein de gens. La justice est un principe fondamental de notre système, mais est-ce que les citoyens le maîtrisent vraiment? Pour un principe fondamental, on se tourne toujours vers la justice lors d'un conflit ou la transgression des règles répréhensibles par la loi. Et du coup, pendant cette expérience, j'ai assisté à une audience qui était sur une affaire de violence conjugale. Et pendant l'audience, la salle était constituée principalement de femmes, à l'exception de l'avocat. Et entre mes camarades avec qui j'ai fait cette observation, il y a eu un petit problème concernant la spatialité des juges. Et ce constat nous amène donc à questionner la limite de l'impartialité de la juge dans les cas où une proximité peut se créer entre elle et le dossier. Ainsi, au-delà de l'impartialité et du cas précis des violences conjugales, cela pose la question de la frontière entre la juge et son rôle social. Sa fonction de juge lui confère des devoirs qu'elle se doit d'assurer face à la loi et aux autres acteurs du tribunal également. Et dans l'esprit des lois, Montesquieu écrit « Les juges ne sont pas la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui ne peuvent en modérer ni la force ni la rigueur. Il paraît néanmoins plus réaliste, d'imaginer une juge comme une personne capable de produire une appréciation personnelle des choses avant d'être en rôle d'exemplarité. Il est raisonnable de se demander comment une rupture peut-elle s'opérer entre la juge et ses devoirs. C'est donc dans ce cas que nous allons nous demander le devoir d'impartialité. Ensuite, celui qui propose le rôle de présidentité, l'audience, enfin de contrarier la conformité à son devoir. Parce qu'une audience sur une affaire de violence conjugale qui est jugée que par des femmes, est-ce que cela pose-t-elle un réel problème? Comme le disait, les juges sont avant tout des êtres humains et sont dotés de sentiments, comme on parlait des juges tout à l'heure. Du coup, forcément, des sujets qui touchent aux femmes, jugés par les femmes, je ne sais pas.
Toi, ce que tu as vécu, c'est que tu es allé voir une audience et que tu as remarqué que la juge avait une certaine,
empathie. Par rapport à la femme qui était du coup victime de violences conjugales. Et je me souviens de ce passage où l'homme qui était du coup l'accusé disait « Ah, si j'ai été violent avec ma femme, c'est parce que c'est par amour. » Et la juge lui a répondu du coup « Non, on ne frappe pas par amour. » Et je trouvais ça très beau. Et du coup, dans la salle, à la fin, du coup, de l'audience. Et il y a certains qui s'offusquaient parce que, apparemment, c'était un jugement moral. Mmh. Et du coup, c'était pas son rôle de, enfin, d'apporter ça comme argument ou de, et j'étais là, mais attends, là, on parle d'une affaire quand même de violence. Surtout les femmes, on sait que peu importe, n'importe quelle sous, n'importe quelle couche de la société sont opprimées, sont victimes de viol. Même les juges n'y échappent pas. Les juges femmes. Donc, dans ce cas, je me dis.
Et en fait, est-ce que c'est pas finalement une bonne chose que les juges aussi puissent se permettre d'exprimer aussi une certaine humanité, puisqu'on parlait justement de l'humain, la part humaine que vient mettre le jury populaire en fait dans un procès, dans la procédure judiciaire. Est-ce que finalement ce type d'intervention, est-ce que c'est pas une bonne chose aussi que ça puisse exister?
Oui, totalement. Et c'est un truc qui je me dis, certes, les juges sont formés pour être impartiaux. Mais on ne peut pas non plus les interdire.
Mais ils mettent l'audience en même temps.
Mais même dans les audiences. Totalement, on est dans une société et toutes nos interactions avec les autres donnent un lieu, un sentiment, un truc, peu importe, qu'on ait été formé pour être des robots ou des machines. Mmh. C'est un peu impossible, quasi impossible d'échapper quand même à ces conditions de vie. On est des êtres humains, on ne peut pas échapper à nos émotions. Mmh. Enfin, on est un peu...
Puis effectivement, cette humanité, elle est nécessaire.
Oui.
Vous avez cité la phrase de Montesquieu qui est très connue par les juristes. Ouais. Hein, les juges ne sont que la bouche de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent ni en modérer la force, ni la rire. Oui, parce qu'on la connaît beaucoup en droit.
Oui.
Mais en fait, elle correspond à une période très très particulière, cette phrase. Hein. Elle correspond à une époque qu'on appelait l'époque du légicentrisme, où on considérait qu'en fait, le juge ne devait avoir quasiment aucun impact sur les jugements. Tout ce qu'il devait faire, c'était effectivement dire les paroles de la loi, les reproduire. Oui. Il n'a même pas la capacité, par exemple, de moduler une peine. Les peines étaient fixes.
Sachant que la loi, elle a été écrite également par les hommes.
Mais oui, complètement.
Donc, normalement, ils ont été à un moment aussi guidés par...
On oublie même que la Constitution avait été écrite par les citoyens et citoyennes à la base.
Oui, c'est ça. Alors après, par contre, c'est vrai que parmi mes collègues juristes, il y en a beaucoup qui vont critiquer ce pouvoir d'interprétation dont dispose le juge aujourd'hui, en considérant que c'est un moyen de rétablir une forme d'arbitraire, parce que ça veut dire que selon la personnalité du juge, vous n'avez pas nécessairement à avoir le même jugement. Moi, j'ai tendance à considérer qu'effectivement, à partir du moment où le juge fait bien appliquer la loi, mais que dans sa prise en compte des circonstances particulières de l'infraction, que ce soit la personnalité de la personne qui est en train d'être jugée, la personnalité de la victime, la nature de leurs interactions, ce que disent les témoins, quand il prend en compte tous ces éléments-là, il ne peut que le faire par son humanité. Et s'il ne fait pas,
on peut pas s'en départir.
Puis là, j'avais l'impression que c'était totalement un jugement un peu symbolique, vu que c'est des femmes qui jugent une affaire de violence conjugale. Du coup, forcément, tous les arguments prononcés par la juge ou même ses prises de position étaient prises comme quelque chose d'un peu émotionnel. Elle était forcément, c'est une femme, du coup forcément les femmes sont toujours guidées par les émotions.
Mais c'est aberrant, parce que si on suit cette logique, ça veut dire quoi?
Ça
veut dire
que ça avait été un juge homme qui avait eu ce genre de propos lors d'une audience, personne ne serait offusqué du fait que le juge a émis un jugement de morale et de valeur.
Surtout que en vérité, on peut peut-être apprécier ça comme un jugement de morale, mais c'est aussi un jugement juridique. Hein.
On ne frappe pas quelqu'un par amour. C'est un fait.
Oui, vous avez, en gros, vous avez une infraction quand vous frappez quelqu'un sans son consentement, parce que vous pouvez avoir le consentement aussi, sans son consentement, et vous avez après ce qu'on appelle des faits justificatifs, c'est-à-dire des choses qui peuvent venir excuser votre infraction dans des cas très précis. C'est typiquement la légitime défense, par exemple, ou l'état de nécessité.
Mais l'amour
n'en
fait
pas
partie. Et si ça en faisait partie, ça serait vraiment terrible. Donc c'est aussi un jugement juridique, en fait, que de le dire.
Les femmes souffrent.
Et c'est pour ça, en fait, si on suit cette logique-là, que justement tes camarades ou les personnes qui s'étaient offusquées, commençaient à dérouler, si on la suit, en fait, on se dit, mais attends, est-ce que ça veut dire qu'on doit juger toutes les violences conjugales par des hommes? Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il y a des hommes, des femmes, et chacun arrive avec son vécu, et puis, normalement, fait au mieux son travail.
Peut-être qu'on va interdire certaines affaires aux femmes juges.
Mais d'autant qu'il y a
c'est
eu
dystopique,
des, il y a eu des, j'ai pas beaucoup travaillé ce sujet-là, mais je sais qu'il y a eu des études justement, notamment en France, où vous savez que le métier de magistrat est un corps, enfin le corps des magistrats est très féminisé de plus en plus, parce que il y a de plus en plus de, essentiellement des femmes qui font des cursus assez longs, qui permettent justement d'accéder à la magistrature, ce qui fait que le corps s'est peu à peu féminisé. Sauf d'ailleurs dans les postes hautement placés, où là on a plutôt une prédominance des hommes, comme de chez par hasard.
Mais
c'est le cas. Voilà. La magistrature malheureusement n'échappe pas à cette logique-là. Faut qu'on arrête. J'allais juste dire que il y a eu des études qui ont démontré que les jugements rendus par les femmes n'étaient pas très différents des jugements rendus par les hommes. Donc,
mais totalement.
Est-ce que ça nous surprend vraiment?
Non.
En fait bon, alors, c'est vrai, on devait parler de d'une certaine réforme des retraites, puisqu'elle a provoqué une sorte d'explosion démocratique autogestionnaire dans nos rues de Paris et d'ailleurs. Alors, évidemment, on ne va pas pouvoir rentrer à fond dans le sujet. Simplement, on soutient absolument la mobilisation. Je pense on suit tous. Et puis, peut-être, ça fera l'objet d'une prochaine émission. En tout cas, on va vivre ça le plus intensément possible, pour vous en reparler le mois prochain. Sur Délibéré, toujours l'émission qui s'intéresse aux luttes étudiantes et aux mouvements sociaux étudiants. Eh bien, je pense qu'on va se quitter sur une musique peut-être un peu plus détente qui va nous emporter une autre énergie, peut-être un petit peu plus relaxante. Je vous propose d'écouter, pour se quitter, Weightless de Child.
Like this, you come home with a heavy heart for me. Nights like this, an endless kiss is all you really need. Let's think about nothing. Just think. Thank you.